Bonjour. Sylvain ne veut pas me donner la parole ce matin. Ça se paiera. Ce matin, on va parler d'un thème dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, comme si j'avais un peu une obsession. C'est la question du témoignage. La question de la manière dont les chrétiens sont témoins dans ce monde. Et ce matin, nous allons prendre un passage dans l'Ancien Testament, dans le prophète Jérémie, et nous allons voir un passage narratif, intéressant, que j'espère que vous allez apprécier. Mais avant de le lire, il faut faire une petite contextualisation historique de l'époque de Jérémie. On est plutôt à la fin de la période du royaume de Juda, pas longtemps avant que Babylone n'envahisse Juda et en déporte les habitants. Et donc, dans le contexte historique, vous avez Babylone, au nord, qui est la nation montante, la nation qui commence à dominer un petit peu tout le monde. Et au sud, vous avez l'Égypte, la vieille nation, mais toujours vaillante et puissante, qui commence un petit peu à craindre les avancées de cette grande nation de Babylone. Et donc l'Égypte compte bien construire une sorte de rideau pour empêcher Babylone de progresser. Et dans le rideau, le cordon sanitaire, dans le cordon de sécurité, il y a le royaume de Juda qui roule pour l'Égypte. Voilà, et qui est censé un petit peu arrêter Babylone, ou en tout cas ralentir Babylone. Et donc, il y a une coalition qui est en train de se former contre Babylone. Mais le problème, c'est que Babylone gagne contre l'Égypte, qui du coup va se transformer en sous-marin, en tout cas va être beaucoup moins puissante. Et puisque Juda avait misé sur l'Égypte pour se protéger, Juda est en danger de mort. Voilà. Et dans ce contexte-là, vous avez Jérémie, avant même que l'Égypte soit battue, Jérémie a prêché à l'intérieur du royaume de Juda pour que le royaume de Juda se soumette à Babylone et ne se repose pas sur l'Égypte. Et donc nous sommes dans une période, au moment de notre passage, où tout le monde voit que Jérémie a eu raison, qu'il ne fallait pas miser sur l'Égypte, puisque l'Égypte vient d'être arrêtée, vient d'être battue à la bataille de Carchémish. Donc on va maintenant pouvoir lire ce chapitre 36 du prophète Jérémie, et on va le lire par séquence. Donc première séquence, premier épisode du feuilleton. La quatrième année du règne de Yehoiakim, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel adressa ce message à Jérémie. Prends un rouleau de parchemin. Tu y inscriras toutes les paroles que je t'ai dites au sujet d'Israël, de Juda et de toutes les nations depuis le jour où j'ai commencé à te parler sous le règne de Josias et jusqu'à ce jour. Lorsque les gens de Juda entendront tous les maux que j'ai décidé de leur infliger, peut-être chacun d'eux abandonnera-t-il sa mauvaise conduite. Et alors, je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Alors, Jérémie fit appel à Baruch, fils de Néria, et Baruch écrivit, sous la dictée de Jérémie, sur un rouleau de parchemin, tout ce que l'Éternel lui avait dit. Puis Jérémie donna les instructions suivantes à Baruch. « Je suis retenu et je me trouve dans l'impossibilité de me rendre au temple. Va donc toi-même au temple de l'Éternel, un jour de jeûne, et lis dans ce rouleau que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel pour les faire entendre à tout le peuple, ainsi qu'à tous les gens de Juda qui seront venus de leurs différentes villes. Peut-être se mettront-ils alors à supplier l'Éternel, et chacun d'eux abandonnera-t-il sa mauvaise conduite, puisque l'Éternel a menacé ce peuple avec une grande colère et une forte indignation. » Premier épisode du feuilleton. Jérémie a été appelé par Dieu en 627 avant notre ère. Le parchemin qu'il demande d'écrire à Baruch représente donc 20 ans de prophétie. 20 ans déjà de prophétie que Baruch doit transcrire et copier, ce qui ne devait pas être tout à fait court. Ça représente 25 chapitres. Donc si vous regardez dans votre Bible, vous pourrez voir que c'est à peu près 25 chapitres de notre livre de Jérémie. Et donc, on peut, si vous regardez par exemple les 25 premiers chapitres de votre Bible, vous pourrez regarder les titres qui ont été mis par les éditeurs pour résumer les petits passages des 25 chapitres, et vous pourrez voir que les titres sont franchement négatifs. Jérémie condamne, en tout cas l'Éternel via Jérémie, condamne le peuple. Parce que le peuple veut se reposer sur ses propres forces. Le peuple veut se reposer sur l'Égypte, au lieu de faire confiance à l'Éternel. Tout ça pour combattre Babylone, parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas faire confiance à l'Éternel. Et c'est bien pour ça que l'accès au temple est interdit. C'est bien pour ça que Jérémie dit à Baruch, « Je ne peux pas aller au temple, donc vas-y toi-même pour lire les 25 chapitres que tu viens d'écrire. Pour redire au peuple ce que j'ai déjà dit, mais je l'ai déjà dit en 20 ans, donc tu vas leur faire un best-of Jérémie, et tu vas leur lire tout cela. » Et donc c'est Baruch qui y va, puisque Jérémie n'est pas en odeur de sainteté auprès des principaux dirigeants, parce qu'il est accusé finalement de démoraliser le peuple, en disant au peuple « Soumettez-vous à Babylone, arrêtez de vous battre et obéissez à l'Éternel ». On l'accuse de démoraliser le peuple, et donc il ne peut pas aller au temple. Il dit à Baruch d'aller au temple un jour de jeûne. Et on pense fortement que ce jour de jeûne a été décrété par le roi Jéhoiakim, parce que Babylone ayant battu les Égyptiens, les gens de Juda commencent un tout petit peu à avoir très peur. Ils se disent, maintenant qu'ils ont battu l'Égypte, ils vont nous envahir. Et donc, on peut imaginer le roi qui a décrété un jour de jeûne pour implorer l'Éternel. L'Éternel, donc, qui n'était pas tout à fait abandonné. Les gens de Juda étaient idolâtres, mais ils avaient conservé l'Éternel comme principal Dieu, quand même. Et donc, en cas de vrai besoin, en cas d'urgence, on s'adressait quand même au principal Dieu qui était l'Éternel, mais ils étaient sinon complètement tombés dans l'idolâtrie. Et donc, on avait énoncé un jour de jeûne, et c'est pendant ce jour de jeûne, là où il y a des gens qui sont encore réceptifs sûrement au message de la Bible, que Baruch va délivrer justement ce discours. On peut se poser la question, Jérémie a-t-il espoir de changer le cours des choses? L'Éternel lui dit, annonce au peuple tout ce que tu as dit, peut-être qu'ils vont changer de voie. Et Jérémie dit à Baruch, va annoncer au peuple, peut-être qu'ils vont renoncer à leur mauvaise voie. Et donc on peut se dire, peut-être qu'il y a un espoir. Mais il faut se référer à ce que Jérémie a dit au chapitre 7, pour voir qu'en fait il n'y a aucun espoir, puisque au chapitre 7, dans ce même temple, voici ce qu'il a dit, enfin voici ce que Dieu dit à Jérémie avant de l'envoyer au temple. Quant à toi, ne prie pas pour ce peuple. N'élève pas pour eux ni cri ni prière. N'intercède pas auprès de moi, car je n'entendrai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les fils ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel. C'est la reine Astarté, c'est la déesse. On veut me contrarier en répandant des libations pour d'autres dieux. Est-ce moi qu'ils contrarient? Déclaration du Seigneur. N'est-ce pas plutôt eux-mêmes pour leur propre honte? À cause de cela, parle le Seigneur Dieu, ma colère, ma fureur se répand sur ce lieu, sur les humains et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera sans plus s'éteindre. L'Éternel avait annoncé à Jérémie, plusieurs années auparavant, qu'il va devoir dénoncer les péchés du peuple, mais que le peuple ne se repentira pas. que le peuple a atteint un point de non-retour dans l'endurcissement du cœur. Mais il faut encore aller prêcher une fois de plus à ce peuple. Et on verra ce qui va se passer. Épisode 2 du feuilleton de Jérémie 36. Baruch fit tout ce que le prophète Jérémie lui avait ordonné. Il lut au temple de l'Éternel les paroles de l'Éternel consignées dans le livre. Cela se passait la cinquième année du règne de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, au neuvième mois. On avait publié un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tous les gens des villes de Juda qui venaient à Jérusalem. Baruch lut dans le rouleau les paroles de Jérémie dans le temple de l'Éternel, dans la salle de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve du temple. Tout le peuple pouvait l'entendre. Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, entendit toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre. Il se rendit au palais royal, entra dans le bureau du secrétaire où tous les dirigeants étaient en séance. Il y avait là Elishama, le secrétaire, Delaïa, fils de Shemaïaou, Elnathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Anania et tous les autres dirigeants. Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues de Baruch lorsque celui-ci avait lu au peuple ce qui était écrit dans le rouleau. Alors tous les dirigeants envoyèrent Yehudi, fils de Netanyahou, fils de Shelemia, fils de Cushi, à Baruch pour lui dire « Prends avec toi le rouleau que tu as lu au peuple et viens ici. » Baruch, fils de Neria, prit le rouleau et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent « Assieds-toi, s'il te plaît, et lis-nous cet écrit. » Baruch leur en fit donc lecture. Lorsqu'ils entendirent toutes ces paroles, ils se regardèrent l'un l'autre avec effroi et ils dirent à Baruch « Il faut absolument que nous apportions toutes ces paroles au roi !» Puis ils interrogèrent Baruch « Dis-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles. Était-ce sous la dictée de Jérémie ?» Baruch leur répondit « Il m'a dicté personnellement toutes ces paroles et moi je les ai transcrites avec de l'encre sur ce rouleau. » Alors les dirigeants dirent à Baruch « Va trouver Jérémie et cachez-vous tous les deux, que personne ne sache où vous êtes. » Baruch va lire son rouleau dans deux endroits. Une fois au temple, devant tout le peuple, et une deuxième fois devant les dirigeants du temple, qui a entendu que c'était des paroles très importantes et qui juge nécessaire de faire entendre à tous les autres dirigeants du temple les paroles du livre. Donc vous avez Baruch qui a lu deux fois 25 chapitres. On peut imaginer qu'il avait une gourde d'eau pour lire ces 25 chapitres. Les réactions face à ce discours, les réactions du peuple, on ne les connaît pas. Mais on sait que Michée, qui fait partie des dirigeants du temple, va se dire « c'est très très important ce qu'on vient d'entendre ». Et il l'a déjà un petit peu entendu sûrement certaines paroles de Jérémie, mais les réentendre là, à la lumière des nouveaux événements, à la lumière de la défaite de l'Égypte face à Babylone, il se dit « mais c'est bien sûr, Jérémie avait raison, il y a un truc à faire. Il faut absolument que tout le monde comprenne que tout ça, ça vient de l'Éternel ». Et que finalement, il faut se repentir. On peut s'apercevoir que ces nobles croient aux prophéties de Jérémie. Et certains le protègent même. Dans le temple, comme chez les dirigeants du temple, Baruch est donc pour l'instant confronté à un public plutôt réceptif. 13 ans plus tôt, 13 ans avant ces événements, Josias, le père du roi actuel, Jéhoiakim, avait redécouvert la loi de Moïse dans le temple. Et il avait fait des réformes. Il était revenu à l'Éternel. Et le peuple aussi était revenu à l'Éternel, de l'idolâtrie. Mais entre-temps, en 13 ans, ils étaient retombés dans l'idolâtrie. Mais à ce moment-là, les dirigeants du temple peuvent se demander, est-ce que Jérémie va nous faire va nous refaire finalement le même coup d'il y a 13 ans, de créer une sorte de réveil spirituel où le peuple va une fois de plus revenir à l'Éternel? Est-ce que c'est possible? Peut-être pas, parce qu'ils veulent aller lire le rouleau devant le roi, mais avant d'aller lire le rouleau devant le roi, qu'est-ce qu'ils disent à Baruch et à Jérémie? Cachez-vous. Donc ils commencent un petit peu à prévoir la réaction du roi. La réaction du roi risque de ne pas être très positive. Et pourquoi? Eh bien, parce que dans Jérémie 26, on a l'épisode d'un certain Uri, qu'on va pas lire, un Uri qui était un prophète de l'Éternel, qui a prophétisé qu'il fallait revenir à l'Éternel. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Uri, qui était un petit peu ahuri justement, parce que le roi a signé son arrêt de mort. Le roi lui a dit, toi, tes paroles vont pas dans mon sens, donc je vais envoyer des tueurs pour te flinguer. Et donc il a fui en Égypte, mais le roi a envoyé des tueurs en Égypte et Uri a mal fini. Et donc là, les personnes qui ont bien reçu les paroles de Jérémie se disent, vu la personnalité du roi Jéhoiakim, il vaut mieux que Baruch et Jérémie se planquent. Troisième épisode. Puis ils se rendirent chez le roi, dans la cour de son palais, en laissant le rouleau dans le bureau du secrétaire Elishama. Et ils informèrent le roi de tout ce qui s'était passé. Celui-ci envoya Yehudi chercher le rouleau. Quand Yehudi le prit dans le bureau du secrétaire Elishama, il le lut au roi et à tous les dirigeants qui se tenaient debout autour de lui. Cela se passait au 9e mois. Le roi se trouvait dans son palais d'hiver et un brasero brûlait devant lui. Chaque fois que Yehudi avait lu 3 ou 4 colonnes du rouleau, le roi les coupait avec le canif du secrétaire et les jeter au feu dans le brasero, jusqu'à ce que tout le rouleau soit passé au feu dans le brasero. Mais ni le roi, ni aucun de ses ministres qui entendaient toutes ces paroles ne furent alarmés, et aucun d'eux ne déchira ses vêtements en signe de consternation. Pourtant, Elnathan, Delaya et Gemaria avaient prié le roi avec insistance de ne pas brûler le rouleau. Mais il ne les avait pas écoutés. Au contraire, le roi ordonna à Yéraméel, prince de sang, à Seraïa, fils d'Azriel, et à Shelemia, fils d'Abdéel, d'arrêter Baruch, le secrétaire, et le prophète Jérémie. Mais l'Éternel les tint cachés. Vous remarquerez que les alliés de Jérémie n'apporte pas le rouleau tout de suite au roi. Ils le préviennent oralement. En gros, ils font un best-of du best-of. Ils font un résumé oral de ce qu'il y a dans les paroles du rouleau. Et le roi a l'air intéressé. Alors ils se disent peut-être qu'il va avoir une bonne réaction face à tout cela. Et donc ils apportent le rouleau. Mais en fait, le roi ne fait qu'exprimer son mépris pour les prophéties de Jérémie. Je vous rappelle 25 chapitres que Baruch a écrit pendant longtemps, et à chaque fois qu'on lit quelques paroles, le roi coupe un bout du rouleau, il le coupe en lanières et il le fait brûler en signe de mépris. Et donc vous imaginez, et vous avez plus qu'à imaginer, il suffisait de lire les réactions des personnes du temple qui croient dans les prophéties de Jérémie. Ils lui disent, mais non, mais fais pas ça, brûle pas ces paroles. Ils considèrent ces paroles comme la parole de Dieu. Et ils disent au roi, mais ne fais pas ça, crois plutôt, fais attention. Si tu ne te repens pas, il va arriver un malheur. Le roi est en train de confirmer finalement ce que l'Éternel disait à Jérémie. C'est pas la peine de prier. C'est plus la peine. Ce peuple a le cœur endurci. Ce roi a le cœur endurci. Il ne reviendra pas de ses mauvaises voies. Et donc, entre le parti pro-Jérémie et le parti anti-Jérémie, c'est le parti anti-Jérémie qui gagne. C'est le roi qui gagne. Dernier épisode du feuilleton. Après que le roi eut brûlé le rouleau contenant les paroles de Baruch, que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie, l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. « Prends un autre rouleau sur lequel tu écriras toutes les paroles qui figuraient sur le premier rouleau que Jéhoiakim, roi de Juda, a brûlé. Tu diras à Jéhoiakim, roi de Juda, voici ce que déclare l'Éternel. Tu as brûlé ce rouleau en demandant « Pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra détruire ce pays et en exterminer hommes et bêtes ?» C'est pourquoi, voici ce que l'Éternel déclare au sujet de Jéhoiakim, roi de Juda. « Aucun de ses descendants ne lui succédera sur le trône de David. Son cadavre sera jeté dehors et exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit. Je le punirai, lui, ses descendants et tous ses ministres pour leurs crimes. Et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les gens de Juda, tous les malheurs que je leur ai annoncés et dont ils ont refusé d'entendre parler. » Alors Jérémie prit un autre rouleau et le donna au secrétaire Baruch, fils de Neria. Celui-ci y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles contenues dans le livre que Jéhoiakim, roi de Juda, avait brûlé. Il y ajouta encore beaucoup d'autres paroles semblables. On comprend que dans les paroles que l'Éternel reporte du roi, que justement le roi Jéhoiakim ne comprend pas forcément que Jérémie, ne pense pas forcément que Jérémie est un faux prophète. C'est surtout que les prophéties de Jérémie ne correspondent pas à ses plans. Et finalement, le roi, de sa réaction, il dit « Mais tu vois, t'avais prédit que Babylone allait battre l'Égypte, que Babylone allait nous envahir. T'es un prophète de malheur, t'es un oiseau de mauvais augure. Et voici ce que je fais de tes prophéties de mauvais augure. Je les brûle. » Il ne s'est pas interrogé si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Il s'est bouché les oreilles parce que c'était pas ce qu'il voulait entendre. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Imaginez la réaction de Baruch et de Jérémie quand ils ont appris que le rouleau avait été brûlé. Mais ce qui est pire pour eux, ce n'est pas tout ce travail pour rien. C'est la non-repentance du roi. C'est la non-repentance du peuple. Ils ont atteint réellement la ligne rouge, le point de non-retour. Dieu les a exhortés une dernière fois. Et ils ne veulent pas entendre. Tout est à refaire. Pourquoi réécrire ce qui vient d'être détruit? C'est la question qu'on peut se poser, puisque maintenant le peuple ne veut plus croire. Eh bien, la première réponse, c'est pour que nous ayons les paroles. Parce que du coup, les paroles que Baruch a réécrites, eh bien, on les a dans notre Bible. Et donc, c'est vraiment bien. Parce que du coup, on a un témoignage direct de la fin du royaume de Juda, qui a fini par se faire envahir par Babylone, qui a été détruit, dont le peuple a été déporté à Babylone. Maintenant, nous pouvons constater que Jérémie avait prévenu, que le peuple n'a pas cru, et que le peuple en a payé le prix. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il faut écrire, réécrire ce document? C'est un document qui témoigne de la condamnation de ce peuple. Ce peuple n'a pas voulu croire. Eh bien, on réécrit pour vraiment écrire et vraiment stipuler que si le peuple est tombé, ce n'est pas la faute de l'Éternel qui a prévenu sans relâche. C'est sa faute à lui parce qu'il n'a pas voulu écouter. Et du coup, la sentence est énoncée dans ce dernier épisode. Jéhoiakim n'aura pas un règne qui se finira. Il sera destitué par les Babyloniens, puisqu'il est pro-égyptien. Et donc, on mettra un autre roi, son frère, à la place. Et donc, ses descendants ne monteront pas sur le trône. Et le reste du peuple, eh bien, sera déporté. Histoire pas super optimiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on peut voir que dans la Nouvelle Alliance, la question de la réception de la parole de Dieu n'est pas plus optimiste que ça. On pourrait se dire dans l'Ancien Testament, bon voilà, c'est comme d'habitude, voilà, c'est un peu, voilà, ça nous sape le moral, mais le Nouveau Testament, c'est un petit peu plus joyeux. Et on voit que dans la Nouvelle Alliance, bah, c'est pas mieux. Entre Jérémie et Jésus, il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Le fait de parler au nom de Dieu et de ne pas être écouté. Le fait de parler de repentance, de retour à Dieu, et du fait que sans Dieu, eh bien, on ne peut pas connaître le vrai bonheur, on ne peut pas connaître la vraie vie, c'est quelque chose qui est vraiment commun entre Jérémie et Jésus. Mais le point commun, c'est que dans les deux cas, pour les deux personnes, le peuple les a rejetés. Le peuple s'est bouché les oreilles pour ne pas entendre, s'est bouché les yeux pour ne pas voir, pour ne pas être guéri par Dieu. Et là, je cite une parole d'Ésaïe. Et on peut voir finalement que Jésus ne s'est non plus jamais fait d'illusion sur la réception de ses paroles. Et il a dit à ses disciples, ils me détestent et ils vont me tuer. Et il continue avec ses disciples, s'ils m'ont détesté et s'ils vont me tuer, ils vous détesteront et ils vous tueront. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et dans le Nouveau Testament, on voit que l'humanité est séparée en deux. Ceux qui sont éclairés par le Saint-Esprit et qui comprennent qui est Jésus, qui se repentent, qui demandent pardon à Dieu et qui sont pardonnés et qui marchent en nouveauté de vie avec Jésus. Et les autres, ceux qui refusent que le Saint-Esprit les éclaire et qui veulent vivre leur vie pour eux et qui sont condamnés. Et voyez, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est la même logique qui est là. Et vous voyez, hein, avec Jérémie, on est dans le peuple de Dieu qui connaît la loi. Avec Jésus, on est au sein du peuple de Dieu qui connaît la loi. On est avec des gens qui normalement devraient adhérer au message, qui devraient comprendre, mais qui ne comprennent pas. Et enfin, dans la Nouvelle Alliance, on voit Paul qui prêche, et quand il prêche, Paul, il fait toujours une chose en premier. Il va dans une synagogue. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois dans la synagogue? Les Juifs rejettent le message. Et les païens, eux, sont super contents du message. Et Paul s'aperçoit, avec les autres, qu'en fait, l'évangile qui normalement était destiné aux Juifs au départ est rejeté par les Juifs. Les Juifs ne veulent pas du Messie. Et qui est-ce qui en veut? Les païens. La réaction de Paul, c'est la tristesse. Et on le voit dans Romains 9, Romains 10, Romains 11, où il parle finalement du peuple de Dieu qui refuse l'évangile. Et Paul dit, mais moi, je serais prêt à donner ma vie pour que mes frères juifs acceptent le Seigneur Jésus. Je serais prêt à la donner ma vie. Et il est vraiment d'une grande tristesse en voyant ses frères qui refusent. Mais en même temps, eh bien, il prêche l'évangile à ceux qui l'acceptent, les non-juifs. Les actions de Jérémie et de Baruch non seulement ne sont pas décisives, mais elles leur attirent aussi de gros ennuis. Avons-nous l'impression d'être dans cette situation, dans notre témoignage ? Avons-nous cette impression que finalement, en fait, quand on parle de notre espérance, et encore, même pas de notre espérance, mais uniquement que voilà, on est chrétien ou qu'on va au temple, avez-vous cette impression qu'en fait les gens nous regardent un petit peu avec pitié, voire avec méfiance, et que franchement on est sur des planètes totalement différentes? Exemple, vendredi midi, on va au restaurant avec Mélanie et les filles, à Faverolles, à côté de Terminé. Et la serveuse est la maman d'une copine de Moïra. Et donc, on sort un tract pour le club enfant. Et d'ailleurs, il y a plein de tracts sur la table là-bas pour inviter des enfants pour le club enfant. on sort un tract du club enfant, et puis voilà, et puis elle dit, ah, c'est super, un club enfant, c'est vraiment bien, et tout ça. Et Mélanie lui dit, bah oui, c'est samedi prochain, et donc Lily peut venir, ça va vraiment être bien. Elle dit, c'est au temple, il y a un, c'est quoi le temple? Bah, c'est le temple qui est à Gobert. Ah bon, il y a un temple à Gobert. D'accord. Ouais. Et elle dit, bah, c'est pas religieux, on parle pas de religion. Bah, Mélanie, elle dit, bah, si, en fait, il y a une histoire de la Bible. Et là, on a senti un, attention, une histoire de la Bible, c'est impressionnant, quoi. Et elle dit non, et tout de suite elle a voulu se rassurer. Elle a dit non, mais il y aura d'autres copines alors. Mais Mélanie dit oui, en fait on a invité des autres copines, donc vous inquiétez pas. Voilà. Mais dès le départ, le côté une histoire de la Bible, faut faire attention. Donc la Reine des Neiges, le petit chaperon rouge, ça c'est bien, mais une histoire de la Bible, c'est pas bien. C'est intéressant. Hein. On voit que il faut montrer patte blanche. Il faut vraiment expliquer et réexpliquer qu'en fait ce qu'on dit c'est pas dangereux, parce que en fait les personnes se méfient. Et donc vous imaginez, de ce stade là à vraiment l'énorme méfiance, à même uniquement raconter un petit peu de l'évangile, on est très très loin. Et on est un peu dans cette situation là hein, comme Baruch, comme Jésus, comme Paul, avec des personnes qui, normalement, devraient connaître le béaba, mais qu'ils ne connaissent pas. Mais pire, qui ne veulent pas l'entendre. Mais comme pour Jérémie, ou comme pour Paul, Dieu nous demande de persévérer. Nous demande de travailler notre témoignage. Nous demande de continuer d'inviter, de continuer d'expliquer, de ne pas se soucier des moqueries, de ne pas se soucier des méfiances. Nous demande de persévérer. Oreille couchée, c'est plutôt oreille bouchée. Les gens, aujourd'hui, ne veulent pas entendre le message et ne se posent pas la question si le message est vrai. Nous, on pourrait dire, moi je pourrais dire, franchement, souvent, et je fais des conférences là-dessus avec les GBU, je peux vous prouver que le message est vrai. Je peux vous prouver que la Bible n'a pas été inventée. Je peux vous prouver que Jésus a existé. Je peux vous prouver que le message dans toute la Bible est extrêmement cohérent et que c'est vraiment passionnant. Je peux vous le prouver. Mais en fait, la plupart des personnes se fichent totalement de ce qu'on peut prouver, de ce qu'on ne peut pas prouver. Ils ne veulent pas entendre parce que ça ne les arrange pas, parce que ça ne caresse pas dans le sens du poil. Voilà le problème. Et ils se disent qu'en refusant d'écouter le message de Dieu, les choses n'arriveront pas. J'avais des animaux, des espèces de grosses souris qu'on appelle les decks du Chili. Elles croyaient, c'était deux femelles, elles croyaient qu'en se cachant derrière un petit panneau de bois, on ne les voyait pas. Parce qu'en fait, quand elles se cachaient derrière le panneau de bois, en fait, elles ne nous voyaient pas. Donc elles s'imaginaient, parce qu'elles ne nous voyaient pas, que nous on ne les voyait pas. Voyez. Et c'était un petit peu ridicule parce que c'était un petit peu volumineuse, donc on les voyait très très bien. Les gens de notre siècle, les gens de notre monde depuis la nuit des temps, c'est un peu aussi ridicule que ça. Ils croient qu'en se bouchant les oreilles, les choses n'arriveront pas. Alors qu'en fait, elles arriveront si Dieu veut qu'elles arrivent. Alors faut-il que nous espérions changer le monde ? C'est le dernier point. Ce passage nous enseigne que non, nous ne devons pas espérer changer le monde. Nous ne devons même pas nous attendre à des résultats à notre témoignage. Ce que nous avons à faire, c'est à obéir à Dieu, à obéir au Seigneur Jésus qui nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de témoigner de notre espérance. Nous avons juste à obéir à cette parole-là et à ne rien espérer d'autre. Parce que ce qui se passe derrière, ce n'est pas de notre ressort, c'est du ressort du Saint-Esprit. Et ce qui est génial, c'est qu'avec notre faiblesse, avec notre folie, avec notre maladresse dans notre témoignage, Dieu se sert quand même de nous pour sauver quelques personnes. C'est ça qui est génial. Mais nous n'avons pas à réfléchir si nous allons paraître ridicules, si nous allons être convaincants. Et c'est très très dur. Et moi, je fais régulièrement du tractage auprès des étudiants, ou je fais aussi des conférences auprès des étudiants. Et c'est très très dur d'être confronté à un regard d'indifférence ou à un regard de mépris. C'est vraiment super désagréable et je vois pas en fait qui aime ça, être confronté à ça. Et j'aimerais ne jamais faire ça. Ou j'aimerais, si je fais ça, au moins avoir des résultats palpables, visibles, instantanés si possible. Mais en fait, des résultats, j'en ai très peu. Instantanés, visibles. J'en ai quelques-uns. Mais franchement, je me prends pas trop pour Billy Graham. J'ai pas les moyens. Et j'imagine que vous, c'est pareil. On peut se dire, bah, apparemment, l'évangile est puissant, mais on n'a pas vu grand-chose pour l'instant. On n'a pas trop senti, quoi, les choses. On n'a pas l'impression d'être du bon côté, finalement. On a l'impression plutôt d'être du côté de Jérémie et de Baruch qui sont obligés de se planquer pour pas qu'on leur coupe la tête. Mais Dieu nous demande d'être fidèles et de lui obéir et de lui faire confiance. Et je vous invite à prier pour ne pas rester démoralisé. Seigneur, nous l'avons déjà prié, mais nous le reprions. Merci. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus sur la terre. Merci de nous avoir sauvés. Et merci de faire de nous tes enfants et tes instruments pour te faire connaître au monde. Mais tu nous connais par cœur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et tu sais à quel point nous sommes faibles, à quel point nous avons peur, à quel point ce monde n'est pas prêt à entendre ton message. Et tu l'as toi-même expérimenté, à quel point ce monde n'est pas prêt à t'accepter toi. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous le disons, nous le redisons, nous le prions tout le temps. Nous avons besoin de toi, parce que cette mission est bien trop grande pour nous. Nous ne sommes pas assez forts. C'est trop dur. Nous avons besoin que ton esprit prépare le terrain extérieur, mais aussi prépare nos cœurs. Nous prépare. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à ne jamais nous lasser d'inviter, de parler, d'être tes témoins. Seigneur, veille sur nos lèvres, veille sur nos paroles, veille sur toutes nos actions pour que le monde vois que nous sommes différents parce que nous t'appartenons. Et Seigneur, aide-nous à petit à petit à parler de toi, à parler de qui tu es pour nous. Et Seigneur, comme je l'ai déjà prié tout à l'heure, sauve des vies. Sauve les personnes qui nous entourent et qui ne sont pas pires que nous, qui sont même parfois meilleures que nous. Sauve-les, Seigneur. Convainc-les, Seigneur. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen.